Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
L'objectif de cette réforme du collège est de donner aux élèves des apprentissages plus solides et qu'ils aient davantage envie d'apprendre et de progresser. Explication d'Odile Amblard, auteur du tout nouveau guide « J'entre en 6e » qui sort aujourd'hui aux éditions Bayard.
Premier changement, c'est la création de l'accompagnement personnalisé qui va leur occuper 3 heures de leurs 26 heures de cours hebdomadaires.
C'est-à-dire, c'est quoi l'accompagnement?
Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est une modalité de cours différente qui peut prendre vraiment différentes formes. C'est le collège qui va l'organiser, soit en atelier, soit en groupe de besoins.
Ça va dépendre du collège, donc.
Ça va dépendre du collège. Chaque collège est libre de l'organiser comme il l'entend. Ça peut être en classe entière avec 2 enseignants de disciplines différentes. L'accompagnement personnalisé a pour but de donner aux élèves des outils et des bases solides pour qu'ils apprennent à apprendre et qu'ils aient envie de progresser.
D'autres changements dans cette réforme ?
Oui, il va y avoir une évolution assez importante de l'évaluation. Les collèges pourront garder le système des notes, mais il est demandé aux professeurs d'indiquer plus clairement les connaissances, les savoirs et les compétences, les savoir-faire qui sont en cours d'acquisition, non encore acquis ou complètement acquis par les élèves. Et donc, parallèlement, les bulletins scolaires, qu'on appelle aussi bilans périodiques, vont être modifiés pour être plus précis et surtout plus utiles pour les parents et pour les enfants. Et si la note moyenne par matière demeure, la note de moyenne générale, elle va être supprimée. Et enfin, un livret scolaire unique, numérique va être créé. Et c'est une application accessible par Internet qui regroupera tous les bilans périodiques des élèves primaires et collèges.
Est-ce que pour les autres classes, il y a des nouveautés également dans cette
réforme ? Oui, en 5e, 4e, 3e sont créés les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ce sont des modules de cours qui seront organisés par une équipe enseignante, donc de plusieurs disciplines. Par exemple, 3 professeurs, un d'histoire géo, un de sciences et un professeur documentaliste peuvent proposer aux élèves un module sur la conquête spatiale dans lequel les élèves travailleront ensemble pour réaliser un journal radio diffusé sur la web radio du collège. Ça, c'est un exemple. Et ça apprend aux enfants à s'organiser, à travailler ensemble, à parler à l'oral, à coopérer et à faire le lien entre les différentes disciplines, à voir leurs différences et leurs spécificités.
Odile Amblard, à lire donc ce nouveau guide qui sort aujourd'hui aux éditions Bayard, J'entre en 6e.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
L'objectif de cette réforme du collège est de donner aux élèves des apprentissages plus solides et qu'ils aient davantage envie d'apprendre et de progresser. Explication d'Audi Lamblard, auteur du tout nouveau guide « J'entre en sixième » qui sort aujourd'hui aux éditions Bayard.
Premier changement, c'est la création de l'accompagnement personnalisé qui va leur occuper 3 heures de leurs 26 heures de cours hebdomadaires.
C'est-à-dire, c'est quoi l'accompagnement?
Alors, l'accompagnement personnalisé, c'est une modalité de cours différente qui peut prendre vraiment différentes formes. C'est le collège qui va l'organiser, soit en atelier, soit en groupe de besoins.
Ça va dépendre du collège, donc.
Ça va dépendre du collège. Chaque collège est libre de l'organiser comme il l'entend. Ça peut être en classe entière avec 2 enseignants de disciplines différentes. L'accompagnement personnalisé a pour but de donner aux élèves des outils et des bases solides pour qu'ils apprennent à apprendre et qu'ils aient envie de progresser.
D'autres changements dans cette réforme ?
Oui, il va y avoir une évolution assez importante de l'évaluation. Les collèges pourront garder le système des notes, mais il est demandé aux professeurs d'indiquer plus clairement les connaissances, les savoirs et les compétences, les savoir-faire qui sont en cours d'acquisition, non encore acquis ou complètement acquis par les élèves. Et donc, parallèlement, les bulletins scolaires, qu'on appelle aussi bilans périodiques, vont être modifiés pour être plus précis et surtout plus utiles pour les parents et pour les enfants. Et si la note moyenne par matière demeure, la note de moyenne générale, elle, va être supprimée. Et enfin, un livret scolaire unique, numérique.
Numérique
va être créé. Et c'est une application accessible par Internet qui regroupera tous les bilans périodiques des élèves primaires et collèges.
Est-ce que pour les autres classes, il y a des nouveautés également dans cette
réforme ? Oui, en 5e, 4e, 3e sont créés les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ce sont des modules de cours qui seront organisés par une équipe enseignante, donc de plusieurs disciplines. Par exemple, 3 professeurs, un d'histoire géo, un de sciences et un professeur documentaliste peuvent proposer aux élèves un module sur la conquête spatiale dans lequel les élèves travailleront ensemble pour réaliser un journal radio diffusé sur la web radio du collège. Ça, c'est un exemple. Et ça apprend aux enfants à s'organiser, à travailler ensemble, à parler à l'oral, à coopérer et à faire le lien entre les différentes disciplines, à voir leurs différences et leurs spécificités.
Audi Lamblard, à lire donc ce nouveau guide qui sort aujourd'hui aux éditions Bayard. J'entre en sixième.
Sujet numéro 2, vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
En Seine-et-Marne, les jeunes migrants isolés se retrouvent à la rue le jour de leur majorité. Dès leurs 18 ans, ils ne sont plus pris en charge et ce, quelle que soit leur situation. Des jeunes qui tentent de s'intégrer, d'apprendre un métier et qui se retrouvent désemparés.
Faudet était hébergé depuis 2016 par l'aide sociale à l'enfance. Mais le 1er juin, il a eu 18 ans et il a cru se retrouver à la rue. C'est un passant qui a eu pitié de lui, qui l'accueille pour le moment.
J'étais à la gare, toute seule, avec mes bagages, je ne savais pas où aller. Heureusement, il y a le monsieur qui est venu me demander pourquoi je suis là, je suis migrant, ou je viens d'arriver ou quoi. Je dis non, ça fait 3 ans que je suis là, mais ils m'ont mis dehors.
Faudet a quand même décroché son CAP et voudrait continuer sur un bac pro électricité. Les études, c'est sa priorité. Son avocate, Ambre Benitez, a saisi le tribunal administratif pour que Faudet soit aidé jusqu'à ses 21 ans, comme le serait un jeune Français sans soutien familial. Mais aujourd'hui, c'est toute la politique du département qu'elle attaque aussi devant la justice.
On essaye de démontrer que toute la politique mise en place depuis un certain temps est discriminatoire pour éviter que de nouveaux jeunes soient confrontés à la même situation et admise à la rue le jour de leurs 18 ans et puissent bénéficier des mêmes aides sociales que les autres jeunes, indépendamment de leur nationalité.
La Seine-et-Marne met en avant qu'elle accueille plus de 600 jeunes migrants, que ses services sont saturés. Il fallait mettre un coup de poing sur la table, ajoutons au Conseil général. Récemment, la préfecture a promis de contribuer à la prise en charge des jeunes migrants. Faudet, lui, espère encore trouver un hébergement, un lycée et un patron pour continuer son apprentissage.
Document numéro 2, deuxième écoute.
En Seine-et-Marne, les jeunes migrants isolés se retrouvent à la rue le jour de leur majorité. Dès leurs 18 ans, ils ne sont plus pris en charge et ce, quelle que soit leur situation. Des jeunes qui tentent de s'intégrer, d'apprendre un métier et qui se retrouvent désemparés.
Faudet était hébergé depuis 2016 par l'aide sociale à l'enfance. Mais le 1er juin, il a eu 18 ans et il a cru se retrouver à la rue. C'est un passant qui a eu pitié de lui, qui l'accueille pour le moment.
J'étais à la gare, toute seule, avec mes bagages, je ne savais pas où aller. Heureusement, il y a le monsieur qui est venu me demander pourquoi je suis là, je suis migrant, ou je viens d'arriver ou quoi. Je dis non, ça fait 3 ans que je suis là, mais ils m'ont mis dehors.
Faudet a quand même décroché son CAP et voudrait continuer sur un bac pro électricité. Les études, c'est sa priorité. Son avocate, Ambre Benitez, a saisi le tribunal administratif pour que Faudet soit aidé jusqu'à ses 21 ans, comme le serait un jeune Français sans soutien familial. Mais aujourd'hui, c'est toute la politique du département qu'elle attaque aussi devant la justice.
On essaye de démontrer que toute la politique mise en place depuis un certain temps est discriminatoire pour éviter que de nouveaux jeunes soient confrontés à la même situation et admise à la rue le jour de leurs 18 ans et puissent bénéficier des mêmes aides sociales que les autres jeunes, indépendamment de leur nationalité.
La Seine-et-Marne met en avant qu'elle accueille plus de 600 jeunes migrants, que ses services sont saturés. Il fallait mettre un coup de poing sur la table, ajoutons au Conseil général. Récemment, la préfecture a promis de contribuer à la prise en charge des jeunes migrants. Faudet, lui, espère encore trouver un hébergement, un lycée et un patron pour continuer son apprentissage.
Sujet numéro 3, vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 3, documents sonores, première écoute.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des grands-parents, plus jeunes ou en tout cas plus dynamiques qu'autrefois avec l'allongement de l'espérance de vie. Que représentent-ils? Qu'apportent-ils aux petits-enfants? On les dit plus disponibles, enfin surtout quand ils sont à la retraite, plus patients, plus ouverts. Bref, plus cool que les parents. Et si c'était eux, dans le fond, les meilleurs parents? Dans le studio, je reçois le psychanalyste et écrivain Patrick Avran. Bonjour.
Bonjour.
Vous racontez dans votre livre que pendant longtemps, les spécialistes de l'enfance ont fait finalement presque l'impasse sur la place des grands-parents dans la vie de l'enfant. Vous venez de publier Les grands-parents, une affaire de famille. C'est parce que vous êtes aussi vous-même devenu grand-père entre-temps ou pas?
C'est sans doute le livre qui est le plus autobiographique de tout ce que j'ai publié. C'est pas uniquement parce que je suis devenu grand-père, c'est aussi parce que je me suis aperçu que chez les psychanalystes, les grands-parents, ça n'existe pas. Pour une raison très simple, c'est que quand la psychanalyse a été fondée, elle s'est mise à exister
par le bon docteur Freud, oui.
Par le bon docteur Freud, à cette époque-là, les grands-parents, ils étaient inexistants. Tout au moins, ils étaient relégués. Ils n'avaient absolument pas la place qu'ils ont aujourd'hui, compte tenu de
parce
la formidable...
Trop âgés, évidemment.
Oui, ouais. Et puis, ou souvent absents, décédés.
En tout cas, vous nous faites prendre conscience que les grands-parents sont partout dans notre quotidien, dans les romans, au cinéma, dans les séries télévisées. Il y a désormais toute une génération qui se demande « Mais quel grand-parent ai-je envie d'être ?» À cette question aussi, bien sûr, vous apporterez des réponses les uns et les autres. Armelle Le Bigot-Maco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'École des grands-parents européens. C'est une fédération qui réfléchit au statut des grands-parents dans la famille, la société aujourd'hui. Et vous êtes vous-même grand-mère de combien de petits-enfants ?
Grand-mère de 3 belles petites filles et d'un vrai petit fils.
C'est ça.
Voilà.
C'est
donc,
il y a de la famille recomposée dans l'air. On en parlera.
Absolument.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, absolument, on peut être grands-parents de petits-enfants qui n'ont rien à voir biologiquement avec soi-même. Les grands-parents qui peuvent être aussi aujourd'hui au cœur de conflits familiaux, privés de leurs petits-enfants ou au contraire toxiques pour leurs descendants, on en parlera aussi avec vous. Claudine Attias-Donfu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez, alors vous avez publié beaucoup de livres sur notamment vieillir en Afrique, sur les populations issues de l'immigration en France. Et vous publiez également Grands-parents. Vous avez travaillé donc sur tout type de famille. Vous êtes vous-même aussi grand-mère.
Je suis grand-mère, oui.
C'est vraiment le club des grands-parents aujourd'hui.
Sujet numéro 3, document sonore, deuxième écoute.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des grands-parents, plus jeunes ou en tout cas plus dynamiques qu'autrefois avec l'allongement de l'espérance de vie. Que représentent-ils? Qu'apportent-ils aux petits-enfants? On les dit plus disponibles, enfin surtout quand ils sont à la retraite, plus patients, plus ouverts. Bref, plus cool que les parents. Et si c'était eux, dans le fond, les meilleurs parents? Dans le studio, je reçois le psychanalyste et écrivain Patrick Avran. Bonjour.
Bonjour.
Vous racontez dans votre livre que pendant longtemps, les spécialistes de l'enfance ont fait finalement presque l'impasse sur la place des grands-parents dans la vie de l'enfant. Vous venez de publier Les grands-parents, une affaire de famille. C'est parce que vous êtes aussi vous-même devenu grand-père entre-temps ou pas?
C'est sans doute le livre qui est le plus autobiographique de tout ce que j'ai publié. C'est pas uniquement parce que je suis devenu grand-père, c'est aussi parce que je me suis aperçu que chez les psychanalystes, les grands-parents, ça n'existe pas. Pour une raison très simple, c'est que quand la psychanalyse a été fondée, s'est mise à exister.
Par le bon docteur Freud, oui.
Par le bon docteur Freud, à cette époque-là, les grands-parents, ils étaient inexistants. Tout au moins, ils étaient relégués. Ils n'avaient absolument pas la place qu'ils ont aujourd'hui, compte tenu de la formidable...
Trop âgés, évidemment.
Oui, ouais. Et puis, ou souvent absents, décédés.
En tout cas, vous nous faites prendre conscience que les grands-parents sont partout dans notre quotidien, dans les romans, au cinéma, dans les séries télévisées. Il y a désormais toute une génération qui se demande « Mais quel grand-parent ai-je envie d'être ?» À cette question aussi, bien sûr, vous apporterez des réponses les uns et les autres. Armelle Le Bigot-Maco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'École des grands-parents européens. C'est une fédération qui réfléchit au statut des grands-parents dans la famille, la société aujourd'hui. Et vous êtes vous-même grand-mère de combien de petits-enfants ?
Grand-mère de trois belles petites filles et d'un vrai petit fils.
C'est ça.
Voilà.
C'est
donc,
il y a de la famille recomposée dans l'air. On en parlera.
Absolument.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, absolument, on peut être grands-parents de petits-enfants qui n'ont rien à voir biologiquement avec soi-même. Les grands-parents qui peuvent être aussi aujourd'hui au cœur de conflits familiaux, privés de leurs petits-enfants ou au contraire toxiques pour leurs descendants, on en parlera aussi avec vous. Claudine Attias-Donfu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez, alors vous avez publié beaucoup de livres sur notamment vieillir en Afrique, sur les populations issues de l'immigration en France. Et vous publiez également Grands-parents. Vous avez travaillé donc sur tout type de famille. Vous êtes vous-même aussi grand-mère.
Je suis grand-mère,
c'est
oui.
C'est vraiment le club des grands-parents aujourd'hui.
Sujet numéro 4. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 4, première écoute, document numéro 1.
France Bleu Paris.
Avant ça, on retrouve Fabien Hémeau pour le top positif et on démarre cette balade positive avec l'association Miss Oumi à cœur ouvert à Créteil.
Tous les mercredis, à la Maison de la Solidarité, l'association Miss Oumi à cœur ouvert propose des paniers solidaires à 9,99€. Des paniers, en fait, qui permettent de nourrir 6 personnes sur une semaine. Ça, c'est une belle initiative quand même. À l'intérieur des paniers, on retrouve des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des yaourts, des biscuits. Tous les produits sont made in Rungis. Pour profiter de ces paniers, rendez-vous à la Maison de la Solidarité, c'est rue Albert Doyon à Créteil. Et on salue bien sûr tous les bénévoles de l'association Miss Oumi à cœur ouvert pour cette belle initiative positive.
Ouais.
J'adore l'idée.
Super belle idée, effectivement.
Document numéro 2.
Continue cette balade positive à Montreuil cette fois avec une association qui propose à des particuliers d'installer des maisonnettes dans leur cour. Pourquoi faire ? Eh ben pour accueillir des personnes en difficulté.
Oui, ce projet est porté par l'association 14 de Montreuil. L'idée est d'accueillir chez soi des personnes en difficulté dans des petites maisons de 20 mètres carrés, kitchenette, douche, toilette, chambre en mezzanine. Ce studio ressemble en fait à une petite roulotte. Et un couple de Montreuil viennent de se lancer dans cette aventure, c'est Charlotte et Dominique. Ils accueilleront courant novembre 2 réfugiés pendant 6 mois. L'occasion pour ces deux réfugiés de prendre le temps pour trouver un emploi et un logement.
Document numéro 3.
On reste à Montreuil, Fabien, avec l'entreprise Spareka.
Spareka est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces détachées et accessoires d'électroménager. Cet après-midi, au 233 rue Étienne-Marseille à Montreuil, dans les locaux de l'entreprise, des ateliers sont prévus pour apprendre à réparer ensemble. Le programme, 14h30, un atelier sur l'auto-réparation de lave-linge. Et à 15h30, vous pouvez apporter, vous savez, vos appareils électroménagers pour apprendre à les réparer vous-même. Votre four est en panne, votre micro-ondes, votre fer à repasser, votre aspirateur, votre cafetière, votre grille par votre imprimante, bref.
Tout ça d'un coup?
Vous ramenez tout au 233 rue Étienne-Marseille à Montreuil. Événement gratuit grâce à l'entreprise Spareka et tout refonctionnera.
Sujet numéro 4, deuxième écoute, document numéro 1.
France Bleu Paris.
Avant ça, on retrouve Fabien Aymeau pour le top positif et on démarre cette balade positive avec l'association Miss Oumi à cœur ouvert à Créteil.
Tous les mercredis, à la Maison de la Solidarité, l'association Miss Oumi à cœur ouvert propose des paniers solidaires à 9,99€, des paniers en fait qui permettent de nourrir 6 personnes sur une semaine. Ça, c'est une belle initiative quand même. À l'intérieur des paniers, on retrouve des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des yaourts, des biscuits. Tous les produits sont made in Rungis. Pour profiter de ces paniers, rendez-vous à la Maison de la Solidarité, c'est rue Albert Doyon à Créteil. Et on salue bien sûr tous les bénévoles de l'association Miss Oumi à cœur ouvert pour cette belle initiative positive.
Ouais.
J'adore l'idée.
Super belle idée, effectivement.
Document numéro 2.
Continue cette balade positive à Montreuil cette fois avec une association qui propose à des particuliers d'installer des maisonnettes dans leur cour. Pourquoi faire ? Eh ben pour accueillir des personnes en difficulté.
Oui, ce projet est porté par l'association 14 de Montreuil. L'idée est d'accueillir chez soi des personnes en difficulté dans des petites maisons de 20 mètres carrés, kitchenette, douche, toilette, chambre en mezzanine. Ce studio ressemble en fait à une petite roulotte. Et un couple de Montreuil viennent de se lancer dans cette aventure. C'est Charlotte et Dominique. Ils accueilleront courant novembre 2 réfugiés pendant 6 mois. L'occasion pour ces 2 réfugiés de prendre le temps pour trouver un emploi et un logement.
Document numéro 3.
On reste à Montreuil, Fabien, avec l'entreprise Spareka.
Spareka est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces détachées et accessoires d'électroménager. Cet après-midi, au 233 rue Étienne-Marseille à Montreuil, dans les locaux de l'entreprise, des ateliers sont prévus pour apprendre à réparer ensemble. Le programme, 14h30, un atelier sur l'auto-réparation de lave-linge. Et à 15h30, vous pouvez apporter, vous savez, vos appareils électroménagers pour apprendre à les réparer vous-même. Votre four est en panne, votre micro-ondes, votre fer à repasser, votre aspirateur, votre cafetière, votre grille par votre imprimante, bref.
Tout ça d'un coup?
Vous ramenez tout au 233 rue Étienne-Marseille à Montreuil. Événement gratuit grâce à l'entreprise Spareka et tout refonctionnera.